Je m'appelle Arnaud Philippe, je suis chercheur à l'université de Bristol au Royaume-Uni. Si je suis ici, c'est que j'ai publié un livre qui s'appelle La fabrique des jugements et qui traite des déterminants des décisions pénales, principalement en France.
Bonjour pour ce nouveau numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM. Nous allons diffuser quelques extraits de la présentation de La fabrique des jugements, parue aux éditions La Découverte, par son auteur, l'économiste Arnaud Philippe.
Dans ma recherche, en général, je m'intéresse aux deux côtés, enfin, je m'intéresse à des choses en dehors de la justice pénale, mais sur la justice pénale, je m'intéresse un peu aux deux côtés de la barre, quoi, puisque j'ai des travaux sur les comportements délinquants et les déterminants des comportements délinquants. Pourquoi les gens commettent des délits, pourquoi ils le font à certains moments et pas à d'autres, etc., etc. Mais une grosse partie de mon travail, quand même, a consisté à essayer de comprendre les jugements et comprendre pourquoi les juges décidaient de telle ou telle peine ou telle condamnation. Et donc c'est ça qui a donné lieu au livre que je présente aujourd'hui, c'est cette partie-là, quoi.
Et vous avez compris ?
Non. non, le but n'est pas, de dire qu'on a compris ou pas, mais la façon dont je travaille comme économiste est celle où, on entre par question, quoi. On cherche à mettre en évidence des liens causaux entre un truc et un autre. Et en l'occurrence, un autre, ici, c'est toujours les jugements, enfin, c'est toujours les décisions de justice. Et ensuite, on essaye de regarder tout un ensemble de paramètres dont on soupçonne qu'ils sont potentiellement... ils influencent les décisions de justice. Certains, il s'avère que ce n'est pas le cas. Et d'autres, il s'avère que c'est effectivement le cas. Et on essaye un peu de discriminer là-dedans, quoi, d'essayer de mettre en évidence des liens causaux entre différents éléments.
C'était aussi pour moi l'occasion de présenter la recherche qui se fait dans ce domaine, notamment parce qu'en économie, on n'est pas très très nombreux en Europe continentale, c'est surtout des gens aux États-Unis et en Angleterre qui font ça, principalement pour des raisons, pour deux raisons essentielles. La première, c'est une raison d'accès aux données, c'est très facile d'avoir accès à des données aux États-Unis en particulier. Aussi pour des questions d'importance sociale, la justice est une institution importante dans tous les pays. Néanmoins, aux États-Unis, on a quand même 1% de la population qui est incarcérée, on a des peines qui sont incomparablement plus sévères que tous les autres pays d'Occident. C'est de loin le premier pays en termes d'incarcération, si on compte pas la question des Ouïghours en Chine et quelques autres cas comme ça qui sont discutés. Mais du coup, c'est une littérature qui est quand même essentiellement anglo-saxonne. La façon dont je fonctionne. Bah, je peux raconter une petite anecdote, comme ça, ça fait de l'anecdote, c'est plus vivant. Mais il y a quelques années, j'ai été bénévole dans une association qui donnait des cours en prison. Et à l'époque, j'étudiais la biologie, donc je n'avais pas grand-chose à voir avec cet univers-là. Et j'étais sur une feuille de chou d'un chercheur en sciences sociales qui envoyait à tout un tas de gens ses pensées sur tout et n'importe quoi, enfin, concernant la justice quand même. Et un jour, ce monsieur nous envoie un tableau mettant le taux de récidive des individus selon qu'ils ont été condamnés à de la prison ferme, à un sursis simple, à une alternative à la détention, type bracelet, ce genre de choses-là, ou condamné à rien. Et donc il nous met les taux de récidive, donc on voit là assez facilement que les gens qui sont passés en prison ont fait des peines beaucoup plus... ont récidivé de manière beaucoup plus fréquente que les autres. Et là il dit, bon, évidemment, c'est pas génial parce que c'est pas les mêmes individus, quoi. Ceux qui ont fait de la prison et ceux qui ont eu seulement... Enfin, ceux qui ont eu une peine de prison et ceux qui ont eu un sursis... Bah évidemment, c'est pas les mêmes individus, donc on peut pas tout à fait les comparer comme ça aussi brutalement. Donc, bon, si on prend en compte un petit peu la grande catégorie pénale à laquelle ils appartiennent, selon que c'est des gens qui sont là pour stupéfiants, vol, etc., on peut refaire les mêmes calculs par sous-groupe et on constate la même règle. Alors, idéologiquement, ça me gênait pas outre mesure comme résultat, mais quand même méthodologiquement, ça me semblait assez limité. Et donc, je lui envoie un mail pour lui dire, bon, quand même. Même une fois qu'on a pris en compte la catégorie pénale, même une fois qu'on a pris en compte le fait que c'était des stupéfiants ou du vol, bon, déjà, il y a différents types de condamnations pour stupéfiants, il y a différents types de condamnations pour vol, et puis on a des gens qui sont vieux, des gens qui sont jeunes, des gens qui sont insérés, des gens qui ne le sont pas. Enfin, voilà, il y a quand même encore pas mal de variations qui restent. Et le type me dit, ouais, vous avez raison, d'ailleurs, on va en parler dans un séminaire, venez. Il me dit, j'ai que ça à faire, je suis étudiant, j'ai un peu de temps, et donc je me pointe à son séminaire. Et là, j'ai pour la première fois de ma vie découvert ce que c'était qu'une expérience naturelle. Alors, qu'est-ce qu'une expérience naturelle? C'est un peu au cœur de mon bouquin et au cœur de la méthodologie qui est utilisée. Si vous voulez une expérience au sens plein, une expérience randomisée, vous en avez tous entendu parler pour les essais cliniques en termes de vaccins dans les derniers mois, c'est un cas où on prend un ensemble de gens, on tire au sort la moitié des gens, on leur file un vaccin ou on leur file n'importe quoi, l'autre moitié on leur file rien, et puis on regarde ce qui se passe. Ça, c'est une expérience au sens plein. On peut faire ça en sciences sociales. Les grands tenants de ça sont notamment Esther Duflo, Abhijit Banerjee, qui ont eu une Nobel il n'y a pas très longtemps, qui ont un laboratoire d'économie et développement. Et donc là, on prend des villages, on prend des écoles, on tire au sort une partie des écoles pour envoyer un professeur de plus ou pour construire des sanitaires ou ce genre de choses. On ne le fait pas dans les autres, on regarde ce qui se passe. On regarde si la politique a eu un effet efficace. Alors évidemment, quand on s'intéresse à la récidive, ça devient plus compliqué de faire ça. On peut difficilement prendre un ensemble de gens, tirer au sort ceux qui vont prendre une peine de prison et puis regarder ce qui se passe derrière. Au niveau éthique, ça pose quand même des problèmes assez évidents. Donc pour arriver à quand même avancer sur cette question en comparant des gens qui sont comparables, on essaye de trouver ce qu'on appelle des expériences naturelles. Une expérience naturelle, c'est quoi? C'est deux ensembles de gens qui sont a priori assez proches. Et certains sont affectés par une mesure que le chercheur n'a pas voulu, une mesure politique, une mesure de contexte, quelque chose dans ce goût-là, et les autres ne le sont pas. Mais ensuite, on les compare. Quelle était l'expérience naturelle que présentait la chercheuse ce jour-là? C'était celle des grâces du 14 juillet. Quelle est l'idée là? C'est de regarder les gens qui sont condamnés le 13 juillet, à une peine, mettons, de 2 mois de prison, qui vont bénéficier d'une grâce présidentielle, et donc être, dans les faits, seulement passer un mois ou 15 jours ou un mois et demi selon le niveau de la grâce. Et ceux qui sont condamnés le 15 juillet, soit juste après la grâce présidentielle, qui ne sont pas dans le décret, dans la loi de grâce présidentielle qui est votée, et qui donc eux, s'ils ont pris 2 mois, vont effectivement devoir faire 2 mois. Et là, on se retrouve bien dans un cadre expérimental, c'est-à-dire qu'on a deux populations qui sont extrêmement proches, des types qui sont condamnés le 15 et des types qui sont condamnés le 13, mais qui vont, dans les faits, être séparés en termes de traitement pour une raison complètement indépendante de leur volonté, complètement indépendante de tout expérimentateur, et dont on va pouvoir ensuite regarder le devenir à moyen et long terme. C'est ça le type de méthodologie que j'utilise dans à peu près tout le livre. Un des exemples que je prends par exemple dans le livre, c'est qu'on peut se poser la question de savoir quel est l'effet de construire des places de prison. Là, vous avez deux mécanismes auxquels vous pouvez penser. Quand on construit des places de prison, d'un côté, on peut se dire, il y a de la place, les juges vont se dire qu'il y a de la place, et ils vont condamner plus lourdement, parce qu'ils ont de la place. D'un autre côté, vous pouvez dire, ils sont légalistes, et donc ils veulent une homogénéité des condamnations, et donc ils ne vont pas prendre en compte la façon dont leurs décisions sont appliquées. Ces deux possibilités sont a priori réelles, et tant qu'on n'a pas regardé des données, on peut difficilement discriminer entre les deux. On peut regarder l'évolution du nombre de personnes incarcérées en France, l'évolution du nombre de places, on constate que les deux augmentent, mais on ne sait pas si on augmente le nombre de places de prison parce qu'on condamne plus, et de manière à essayer de rattraper le niveau des condamnations, ou si on condamne plus parce qu'on a de la place et que les gens se disent qu'ils ont de la place. C'est une question qui, en plus, à mon sens, est assez intéressante, celle-là, parce qu'elle est normativement assez complexe. C'est-à-dire que vous pouvez d'un côté dire c'est pas normal que les gens soient condamnés différemment selon le nombre de places qu'il y a, c'est une rupture d'égalité devant la loi. Vous pouvez aussi dire c'est tout à fait légitime dans la mesure où 3 mois en prison, dans une prison surpeuplée et insalubre, c'est littéralement pas la même peine, c'est pas la même souffrance infligée à un individu que si on le condamne à 3 mois de prison, la même durée, mais dans une prison en cellulement individuel et moderne dans laquelle il a accès à une bibliothèque, un certain nombre d'activités ou de formations professionnelles. Et donc si on veut avancer sur cette question-là, il faut qu'on trouve une expérience naturelle qui va nous permettre d'un peu discriminer ces différents mécanismes qui sont potentiellement à l'œuvre. La façon dont je procède dans le bouquin, c'est de regarder différents départements, certains dans lesquels s'ouvre une prison à un instant donné, et d'autres dans lesquels ne s'ouvre pas de prison au même moment. Et donc dans ce cas-là, on peut regarder d'une part si ça a un effet sur la surpopulation carcérale, ce qui est massivement le cas, c'est-à-dire que les départements dans lesquels une prison s'ouvre, la surpopulation diminue. C'est logique, mais ça méritait quand même d'être vérifié. Les départements dans lesquels aucune prison n'ouvre, il n'y a pas de diminution de la surpopulation carcérale. Là encore, c'est relativement logique, mais il fallait quand même vérifier avant. Et ensuite, on peut regarder s'il y a un effet sur les peines. Si les magistrats prennent en compte le fait qu'il y a de la place, donc on va mettre plus de gens, on s'attendrait à avoir une augmentation des peines juste après l'ouverture d'une prison, au moment où il y a de la place. En comparaison des endroits où il ne se passe rien, où il n'y a pas eu d'ouverture de prison. Bon, ce qu'on observe, c'est qu'il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation des peines consécutives à l'ouverture d'une prison. Les magistrats semblent ne pas intégrer ce mécanisme-là, enfin ne pas intégrer le fait qu'il y a plus de place, ne pas en tenir compte dans leurs décisions au moment du jugement. Et donc, ils semblent être plutôt légalistes, plutôt considérer que chacun doit être jugé de la même manière, quelles que soient les conditions ensuite de mise à exécution de cette peine. C'était aussi un résultat assez intéressant pour moi parce que j'ai prétendu le contraire pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais partie prenante d'une association, j'ai beaucoup dit qu'ouvrir des prisons conduisait à un appel d'air, conduisait à condamner plus sévèrement, etc. Ça n'est pas le cas. On n'en trouve littéralement aucune évidence dans les données qu'on peut collecter. Ça, c'est un type d'expérience naturelle. Voilà. C'est ça que je fais massivement dans le bouquin, de manière répétée. On essaye de trouver des gens qui sont à peu près identiques. Certains sont affectés par un truc qui ne dépend pas d'eux, qui vient de l'extérieur, qui vient d'une décision extérieure. Et d'autres sont affectés par rien. Et donc on observe dans quelle mesure ces deux groupes se mettent à se comporter différemment un peu plus longtemps. Après. Normalement, un jugement se base sur des textes législatifs, sur une matière pénale existante dans les codes. Mais ces codes reconnaissent la nécessité d'adapter les sanctions aux circonstances de l'infraction, ainsi qu'aux caractéristiques de son auteur, qui est plus ou moins inséré, plus ou moins bien dans sa peau, plus ou moins stable mentalement, qui a plus ou moins une famille, etc. etc. Mais la façon dont je le traite, moi, je distingue plutôt en fait, un peu deux éléments. L'un qui va être... ce qui sont les déterminants institutionnels, ce que sont les textes, ce que sont les structures étatiques, ce que sont les influences qu'exercent différents corps de métier dans la chaîne pénale, donc la police, les parquets, les juges, et l'application des peines, l'administration pénitentiaire, etc. Donc ça, c'est des déterminants un peu normaux, ceux qu'envisagent les juristes assez naturellement dans leur formation. Et la deuxième partie, elle, se concentre plus sur tout ce qui va concerner, ce qui vient brouiller ça, ou ce qui vient impacter ça, le modifier un petit peu ce qui peut être marqué dans les textes, ce qui peut découler des structures. Et donc là, on va retrouver les effets du contexte, les effets des normes sociales, les effets des caractéristiques des individus, qui sont des hommes ou des femmes, qui sont des individus issus de l'immigration, ou pas, enfin ce genre d'éléments, et ainsi que les biais cognitifs qui peuvent éventuellement affecter les magistrats, et c'est tous ces éléments-là dont je vais essayer de regarder un petit peu dans quelle mesure ils influencent les sanctions qui sont prononcées. D'une manière générale, le livre, la question avec laquelle j'ouvre le livre, d'une certaine manière, c'est de dire, bon, en France, on a à peu près 600 000 condamnations par an, un peu plus, à l'heure actuelle, l'écrasante majorité pour des délits, on a 2500, 3000 crimes par an, donc les crimes, principalement des viols, ou assimilés, enfin des atteintes aux mœurs graves, et un petit peu de meurtre, assassinat, etc. Mais l'écrasante majorité, ce sont des délits, des violences, du vol, une consommation de stupéfiants, ce genre de choses. Et si on prend cette population dans son ensemble, on peut voir qu'il y a des gens qui sont condamnés à 20 ans de prison ferme, voire à 30 ans, et d'autres qui sont condamnés à zéro. La question de départ du bouquin, c'est de dire bah, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui prennent zéro, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui prennent 30 ans ? Alors évidemment, posé comme ça paraît un peu débile. Parce qu'on se doute bien que les gens qui ont pris 30 ans sont plutôt des gens qui ont commis des meurtres, et les gens qui ont pris zéro sont plutôt conduite sans permis, défaut d'assurance, stup pour la première fois, première consommation, première fois où vous faites attraper avec un pétard, il y a zéro de peine. Néanmoins, ça, on peut essayer de le regarder ensuite. On peut regarder au sein de chaque catégorie, on peut essayer de faire des petits modèles comme ça, on cherche à expliquer les peines en disant, ok, on va prendre en compte la catégorie pénale, le type d'infraction qui sont commis. On va prendre en compte la procédure, est-ce que c'est une comparution immédiate, est-ce que c'est pas une comparution immédiate. On va prendre en compte, est-ce que c'est des récidivistes, ou des réitérants, ou des primo-délinquants, quel est leur passé pénal, etc., etc. Et si on fait tout cet exercice-là, effectivement, on arrive à expliquer une grande partie de la variabilité. Évidemment, avec ça, on arrive à comprendre une grande partie de ce pourquoi les gens prennent des peines plus ou moins sévères. Mais il nous reste une part inexpliquée qui est assez énorme, enfin, assez conséquente. C'est-à-dire que même si on prend exactement la même infraction d'un individu ayant le même âge, ayant exactement le même genre, ayant exactement les mêmes antécédents pénaux, exactement les mêmes condamnés dans la même cour, etc., etc., on constate encore des divergences assez importantes. Face à ça, on a deux possibilités, enfin deux raisonnements. Le premier est de se dire, peut-être que ça vient de tous les paramètres que moi, en tant que statisticien, en bossant avec des bases de données qui enregistrent un certain nombre d'informations, peut-être que ça vient des informations que je n'ai pas. Quelle est la vie familiale de cet individu? Quel est son ancrage professionnel? Quel est, etc. Son attitude au procès, enfin ce genre de choses. Même au sein d'une catégorie pénale, si vous voulez, une violence volontaire ayant conduit à une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours, bon, ça peut être 9 jours ou ça peut être 6 mois. Et évidemment, la personne ne va pas être jugée de la même façon. Soit on se dit, enfin, on peut se dire ça, et c'est probablement une grande partie de l'explication, hein, je prétends pas du tout le contraire, mais on peut aussi se dire que c'est un ensemble de paramètres, autres, extérieurs, qui vont avoir une influence sur le procès. Le fait que ce soit un descendant d'immigré ou pas, le fait que le contexte médiatique lui soit favorable ou pas, le fait que la norme sociale soit plutôt punitive ou pas dans la localité où il est jugé, le fait que le contexte médiatique, je l'ai déjà évoqué, le fait qu'il y a un certain nombre de biais de jugement, etc., le fait qu'il soit jugé par des magistrats professionnels ou des jurés, etc., etc. Donc ça, c'est toute une partie du livre qui va se pencher sur cet ensemble de paramètres, qui sont des paramètres extra-légaux, qui ne sont pas formellement considérés comme étant légitimes au regard de la loi, mais qui peuvent venir interférer avec un procès. Toute l'autre partie revient à dire, ok, si on regarde, on a des gens qui, des gens qui ont commis des délits différents sont punis de manière différente. Mais ça, on le constate a posteriori. On le constate quand on regarde, effectivement, les gens pour tel type de violence et les gens pour tel autre type de violence ne sont pas punis pareil. Mais est-ce que c'était prévisible pour autant? Est-ce que si on regardait simplement le texte, si on regardait simplement ce qu'il y a dans le code pénal, la façon dont sont définies les infractions, les maximums encourus pour tel ou tel type de délit, est-ce qu'on pouvait prédire ce résultat-là? Est-ce qu'on pouvait prédire que des gens étaient plus ou moins punis et de cette manière-là? Et dans les faits, si on regarde, il y a des tas de délits qui sont passibles de 5 ans de prison, et certains sont punis de 3, 4, 5, 6 mois, et d'autres sont punis de 1, 2, 3 mois. Alors pourtant que le texte dit 5 ans. Donc d'une part, en général, l'écart entre ce qui est marqué dans le code pénal et ce qui a été décidé par les juridictions est conséquent, mais d'autre part, on a a priori le même truc dans le code, on devrait s'attendre à des peines assez similaires, et on ne le voit pas. Ça va constituer un peu toute la première partie du livre, où je vais un peu regarder dans quelle mesure les lois et leurs changements fréquents permettent de comprendre un peu ce qui se passe dans les juridictions. Alors pour entrer un peu plus dans le détail, si on commence par cette première partie, la façon dont je présente les choses, ce qui m'intéresse là-dedans, la première partie consiste à s'intéresser à tous les changements législatifs qu'on a eus au cours des dernières années. Ces changements ont été extrêmement nombreux, c'est-à-dire que le code pénal a été modifié de manière massive depuis 25 ans. Il a été modifié de deux manières principales, la première consistant à créer des nouvelles infractions. Donc on a des nouvelles catégorisations de délits qui sont inscrits dans le code pénal. Et la deuxième consistant à changer les peines maximales proposées dans le code pénal pour chacun de ces types de délits. Ces deux phénomènes sont un petit peu différents. Le premier, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on augmente la sphère pénale? C'est-à-dire qu'on augmente les choses qui sont interdites au sein de notre société. Bon, ça, si on regarde dans le détail, on constate que c'est pas vraiment le cas, dans la mesure où il y a trois grands délits qui ont augmenté le type de comportement considéré comme délinquant. Ces trois grands délits sont le racolage passif, la mendicité agressive, et un troisième dont j'oublie toujours l'intitulé exact, mais qui est le rassemblement en vue de commettre des violences ou des destructions. Ces trois types de délits sont symboliquement importants, ont potentiellement servi à pas mal d'opérations policières, donc on peut imaginer que c'est ça qui a permis à la police de repousser vers les marges de nos villes les prostituées ou les SDF. C'est aussi ça, par exemple, il y avait pas mal d'articles là-dessus qui a permis d'arrêter un certain nombre de gens qui se rendaient aux manifestations des Gilets jaunes, au motif qu'ils avaient des éléments, des barres de métal ou des choses comme ça, et donc ils n'avaient pas encore commis un délit factuellement, mais on les soupçonnait d'être sur le point 2, et donc on pouvait les arrêter pour ce motif. Néanmoins, ces trois conséquences, qui peut-être ont été complètement réelles d'un point de vue policier, sont complètement absentes de ce qui se passe dans les tribunaux. C'est-à-dire que ces délits n'ont donné lieu à aucune condamnation. Personne en France n'est condamné pour racolage passif, personne en France n'est condamné pour mendicité agressive. On retrouve quelques cas sur les 20 ans, mais c'est pas du tout un contentieux de masse. Alors que pourtant, des prostituées, des SDF, il y en a un certain nombre en France. Pourtant, si on regarde la traduction que ça a dans les cours, dans les juridictions, on constate que ça n'est pas utilisé par les magistrats, enfin, ça ne conduit pas à des condamnations. Et ensuite, on a une énorme galaxie de délits qui sont en fait des sous-divisions d'un délit préexistant. Donc on va avoir la consommation de stupéfiants, ça a toujours été interdit. Mais on va créer un délit de conduite sous l'empire de stupéfiants. Ça, c'est pas un nouveau comportement interdit, ça a toujours été interdit d'être sous l'empire de stupéfiants, mais on a une nouvelle incrimination. Et ça, si on regarde un petit peu la traduction pénale qu'ont eu tous ces nouveaux délits créés, on constate que l'écrasante majorité n'a servi strictement à rien. C'est-à-dire que 80% des délits, des types d'infractions créés par le Parlement au cours des 20 dernières années, n'ont donné lieu à aucune condamnation. C'est-à-dire que littéralement, dans les 20 ans de condamnation que j'ai pu étudier, il n'y a personne qui est condamné pour les motifs qui ont été créés. Il y en a 15% supplémentaires qui sont condamnés pour des infractions, enfin, il y en a 15% supplémentaires, pardon, pour lesquels le nombre de personnes qui ont été condamnées pour ces types de délits ne dépasse pas les 10. Et les quelques incriminations qui restent sont typiquement celles que j'ai mentionnées il y a une seconde, qui sont la conduite sous l'empire de stupéfiants. Ça condamne des trucs qui ont toujours été interdits, quoi, par le passé. Donc l'écrasante majorité de cette activité législative, quand même, assez intense, hein. On a vraiment, au début du code pénal, on a à peu près 5000 délits qui existent, en 2014, à la fin de la période que je peux observer, on en a plus de 7000. Donc on a quand même eu une augmentation massive du nombre d'infractions qui existaient dans le code pénal, et l'écrasante majorité de cette activité n'a servi littéralement à rien, c'est-à-dire que dans les juridictions, elle sert à rien. Le deuxième type d'activité qu'a eu le Parlement, ça a été d'augmenter les encourus. Là, on avait un truc qui était passible de 5 ans, on le met à 7 ans, on avait un truc qui était passible de 2 ans, on le met à 3 ans. Bon, bah là encore, si on regarde, la grosse majorité des augmentations d'encourus a concerné des délits qui ne sont jamais utilisés. Donc vous pouvez les passer de 2 à 3 ans, ou à 10 ans, ou à 20 ans, ou à l'infini. Ça ne change rien, les délits ne sont pas utilisés. Donc de toute façon, ça n'a pas vraiment d'effet. Et pour le petit groupe de délits qui sont effectivement utilisés par les juridictions, on constate que quand les peines maximales sont augmentées, ça n'a aucun effet. Les juridictions continuent à punir exactement de la même façon que ce qu'elles le faisaient avant. Pourquoi ça? En soi, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça s'explique en fait relativement facilement. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble des délits et que vous regardez la peine qui a été prononcée contre ces délits et que vous regardez quelle proportion de la peine maximale elle représente, vous constatez un écart abyssal. C'est-à-dire qu'en moyenne, en France à l'heure actuelle, les peines qui sont prononcées pour un délit représentent à peu près 8% du maximum qui était possible. La part ferme représente 4% du maximum qui était possible. Donc en fait, les maximums sont stratosphériquement haut. Ils n'ont aucune réalité par rapport aux peines qui sont effectivement prononcées par les juridictions. Et donc là, vous pouvez augmenter le maximum, vu que de toute façon, personne n'atteint ne serait-ce que la moitié de ce maximum. Peu de chance pour que ça ait un effet considérable. Néanmoins, ça a trois effets sur la population dans son ensemble qui sont problématiques. Le premier, c'est que ça nourrit considérablement un sentiment de laxisme pénitentiaire, de laxisme pénal. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour qui la justice est laxiste, et il est probable que ce sentiment soit nourri par le fait qu'ils voient dans le journal « Monsieur Machin passe en jugement et est passible de 10 ans de prison », et deux jours après, « Monsieur Machin a pris 2 mois ou 3 mois ». Évidemment, le hiatus paraît choquant, quoi. Enfin, il y a un côté, quand même, c'était ça, enfin, il a rien pris par rapport au maximal. Et là, on peut se dire, bon, peut-être que les gens ont raison, hein, peut-être que les peines ne sont pas assez sévères. Néanmoins, on peut s'amuser à faire l'expérience, enfin, à faire l'exercice intellectuel, de se dire qu'est-ce qui se passerait si, effectivement, les condamnations représentaient ne serait-ce que la moitié du maximum. Si en France, un type qui était passible de 10 ans de prison, on lui mettait en moyenne 5 ans. Un type qui est passible de 7 ans, on lui met en moyenne 3 ans et demi. Bon, si on faisait ça, on aurait une population carcérale qui serait supérieure à celle des États-Unis. On aurait un budget de l'administration pénitentiaire qui serait supérieur à celui de la défense et qui approcherait celui de l'éducation nationale. Enfin, on aurait quand même un changement de priorité sociale qui serait considérable, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un choix collectif que les gens pourraient démocratiquement faire, mais qui représente quand même une modification lourde de la façon dont on entrevoit, la façon dont on doit utiliser nos impôts, la façon dont on doit incarcérer les gens, etc. etc. Donc plus probablement, donc si on n'est pas favorable à incarcérer 2% de notre population ou 1,5% de notre population, le plus vraisemblable est quand même que c'est juste que les encourus sont quand même pas mal trop, en fait, et qui sont et que du coup, ils donnent ce sentiment de laxisme qui est factice, en fait, qui est juste un sentiment lié à l'excessivité des peines maximales. Et le problème est que ce sentiment de laxisme, il est vrai pour les individus qui vivent dans la société sans commettre de délit. Enfin, bon, peut-être que ici vous êtes passé en prison dans votre vie où vous avez été jugé, mais la majorité des gens sont pas passés en jugement, et donc ils ont cette impression de laxisme. Mais c'est vrai aussi pour les condamnés. C'est-à-dire qu'il a été montré dans au moins une étude aux États-Unis que quand on diminue la peine maximale sans changer la réalité de la punition, on a des gens qui récidivent moins. On a des gens, parce que menacer quelqu'un de 10 ans et lui mettre 3 mois, c'est déplorable comme image renvoyée de la justice, même pour l'individu condamné. Ça donne à lui-même une sensation de laxisme, et si on le punit également de 3 mois, mais en l'ayant seulement menacé de 1 ou 2 ans, on a quelque chose qui paraît plus substantiel. On n'a pas quelqu'un qui se dit « Oh là là, je m'en suis vachement bien sorti parce que je risquais 10 ans et je me suis pris que 3 mois, donc tout va bien. » Et donc c'est à la fois négatif en termes de dissuasion, de compréhension de la loi pénale, etc. Enfin, c'est négatif pour la compréhension de la loi pénale, à la fois pour les citoyens lambda dans la société, mais également pour les justiciables eux-mêmes. Et ça amène, troisième problème, à une sorte de vacuité de l'activité politique en ce domaine. C'est-à-dire qu'on a une activité politique qui est frénétique, qui amène à punir, enfin, à augmenter considérablement les encourus, etc. Le Parlement passe pas mal de temps à faire ça, et ça sert littéralement à rien. Donc il y a un petit côté temps perdu. Néanmoins, il convient de tempérer ce jugement par une exception importante et assez considérable, qui est le vote en 2007 de la loi sur les peines planchers par le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui venait d'être élu. Donc vous êtes tous au moins aussi âgés que moi ici, donc vous vous en souvenez probablement. La loi sur les peines planchers, c'était une promesse de campagne. Ça a été la première loi votée sous le quinquennat Sarkozy après une ratification de textes internationaux. Et c'est une loi qui, elle, a profondément modifié la pénalité en France. C'est-à-dire qu'on peut très facilement documenter que les peines pour les réitérants... Alors pardon, il faut que je fasse une petite incise ici. Une personne est considérée comme étant récidiviste en France quand elle commet deux fois la même chose. C'est-à-dire qu'un vol après un vol, c'est de la récidive. Un vol après des stupes, c'est pas de la récidive. La loi sur les peines planchers ne cible que la récidive au sens légal du terme. Donc que vol après vol, et pas vol après stup. Okay ? Donc ça, on peut regarder la façon dont évoluent les peines au fil du temps, avant et après 2007, et on constate que la peine pour les primo-délinquants, elle bouge pas. La peine pour les réitérants, donc vol après stup, violence après stup, violence après vol, etc., elle ne bouge pas. Et les peines pour les récidivistes, donc vol après vol, stup après stup, violence après violence, augmentent massivement à partir de 2007. Ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. À mon sens. C'est intéressant d'une part en termes de politique publique, les peines planchers sont un dispositif qui est particulièrement apprécié par un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, principalement à droite et à l'extrême droite, mais pas seulement. Et donc c'est intéressant de savoir ce que ça a fait en soi, comme évaluation de politique publique, quoi. On regarde un peu ce que... Mais c'est aussi intéressant parce que ça informe sur la façon dont les juges prennent des décisions. C'est-à-dire que on a deux choses qui sont intéressantes ici, c'est qu'on a une loi qui vient percuter une échelle qui est préétablie, on a ratification des peines. Et à un moment donné, on vous dit, ces types-là, là, qui étaient à peu près au milieu de la distribution, vous allez mettre tout en haut, quoi. Vous allez les punir très, 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 très sévèrement. Et donc la question est un peu, comment est-ce que les juges s'adaptent à ça? Est-ce qu'ils essayent de conserver une échelle un peu cohérente de la gravité? Donc les types dont avant on considérait qu'ils avaient fait des trucs plus graves, est-ce qu'on augmente aussi, histoire de que ça reste cohérent, quoi? On avait tendance à considérer, je sais pas moi, qu'un petit vol avec... un petit vol simple en récidive, c'était quand même moins grave qu'un primo-délinquant qui fait une violence un peu sévère. Bon, et là, du jour au lendemain, on dit, à partir de maintenant, le vol en récidive, même s'il est mineur, ça reste un récidive, donc vous allez le punir beaucoup plus sévèrement. Ça change quand même l'ordre qu'on attribue à la gravité des faits. La deuxième, c'est qu'on change quand même vachement la continuité dans le temps. Et les magistrats sont quand même des gens qui sont censés suivre des textes de loi, évidemment, mais aussi une jurisprudence, et essayer de juger quand même les gens de manière à peu près cohérente dans le temps. Et du jour au lendemain, on leur dit, boum, là, eux... rupture complète dans le temps, et vous allez les punir plus sévèrement. Et ça, du coup, c'est ce qui m'occupe pendant une partie du bouquin, d'essayer de regarder dans quelle mesure ces deux paramètres-là sont effectivement... Enfin, cette cohérence de l'échelle et puis cette cohérence dans le temps sont affectées. La cohérence dans le temps, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut regarder ce qui s'est passé avec... Non pas avec la loi sur les peines planchers au moment où elle arrive, puisque là, il y avait une volonté politique forte, les gens l'ont appliquée parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais la loi sur les peines planchers, ça a été supprimé. En 2014, après débat sans fin, notamment entre Christiane Taubira et Emmanuel Valls, mais finalement ça a été aboli dans un texte de loi que Christiane Taubira a fait voter. Et ce qu'on observe, c'est que ça n'a strictement rien changé. C'est-à-dire que la gauche au pouvoir à l'époque a payé un coût politique assez important, s'est fait critiquer pour son laxisme, etc., etc. Mais en fait, les peines ne sont pas du tout redescendues. Les peines sont restées complètement identiques à ce qu'elles étaient par le passé pour les récidivistes et pour la catégorie qu'il y avait. Et donc, on n'est pas revenu à l'état avant peine planchée.
Merci à Arnaud Philippe pour sa libre présentation de La Fabrique des Jugements, paru aux éditions La Découverte,